Parle Seigneur, ton serviteur écoute. En commençant cette réflexion avec vous ce matin, j'aurais envie de m'adresser à Dieu en lui disant ceci. Seigneur, au moment où nous allons nous entretenir sur la façon dont nous devons écouter ta parole dans la Bible, nous voulons nous placer devant toi pour te demander d'inspirer nos paroles et nos pensées et de nous apprendre toi-même à entendre ce que dans ton saint livre tu veux nous dire. Nous allons nous efforcer de porter notre attention sur la lecture de la Bible et ce, en tant qu'élément de base de notre culte personnel. Tout au long de ce que je vais essayer de développer avec vous, je voudrais que nous ayons sous les yeux la vision du croyant, du chrétien qui, le matin ou le soir, ouvre sa Bible pour y chercher la nourriture de son être intérieur, la viatique dont il a besoin pour parcourir l'étape de la vie qui est devant lui, dans le silence, dans le recueillement, dans la concentration de tout son être, ce croyant lit et médite la parole de Dieu. D'emblée, par cette vision, nous sommes placés sur le vrai terrain. Le croyant qui rend à Dieu son culte personnel ne médite pas sur ses propres pensées, mais sur les pensées de la Bible. Ou plus exactement, sur les pensées de Dieu que la Bible lui apporte. Le point de départ de travail qui s'accomplit en lui, ce n'est pas lui, c'est la Bible. C'est Dieu lui parlant dans la Bible. Qu'est-ce que le passage que je lis me révèle ? Qu'est-ce que le passage que je lis a à me dire de la part de mon Seigneur ? Voilà les questions que le chrétien se pose lorsque le matin ou le soir, ou à toute autre heure de la journée, il lit la Bible. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, que se passe-t-il quand le disciple, le chrétien, lit et écoute de cette façon ? Quelquefois, ayons le courage de le reconnaître, il ne se passe rien du tout. Je vois Evelyne Onave qui est en face de moi, avec elle, nous évoquions cela il y a un instant. Oui, quelquefois il ne se passe rien du tout. Aucune révélation n'est donnée à celui qui la cherche. Aucun intérêt profond n'éveille en lui pour ce qu'il a lu. Il se sent sec, froid, indifférent au cœur de son être. Il a l'impression que ce livre qu'il lit est vide, que le ciel lui-même est vide et que l'effort qu'il fait pour chercher la parole de Dieu est absolument vain. Tous les chrétiens au cours de leur vie ont connu des heures de sécheresse de ce genre. Heureux ceux qui ne se sont pas laissés décourager, qui se sont dit que la pêche infructueuse d'un jour ou même de plusieurs jours ne devait pas les empêcher de jeter à nouveau les filets. Et qui, n'ayant rien trouvé dans un passage, ont eu la sagesse de chercher plus loin. Rien que dans cette fidélité à lire quand même, à chercher quand même, il y a l'amour de quelque chose de plus. Jésus n'a-t-il pas dit « Celui qui cherche, trouve ». Voici maintenant les cas très nombreux où, soit après une plus ou moins longue attente, soit du premier coup, celui qui lit la Bible pour y trouver Dieu voit une clarté se lever sur lui, une vérité envahir son esprit, une réalité divine baigner son être de tout entier. Pour mieux comprendre, peut-être pourrions-nous prendre l'exemple probablement rétro et dépassé à nos yeux, l'exemple du charbon. durant des centaines de millions d'années. Des forêts entières ont été ensevelies dans le sol, et suite à la lente érosion, suite à de très lentes transformations, nous fournissent aujourd'hui l'essentiel de notre énergie dont nous ne pouvons plus nous passer. Houille, pétrole, lesquels nous procurent chaleur, électricité, et j'en passe. Tout pareillement, dans les pages de la Bible, se trouvent accumulées depuis des siècles d'infinies richesses divines qui sont là à la disposition de ceux qui veulent les extraire et qui se révèlent être capables de libérer des quantités illimitées de chaleur, de lumière et d'énergie spirituelle. Je ne peux résister à l'envie de me référer au psaume 103 que Pierre vient de vous lire il y a un instant, et dont je ne vous relirai que le début et la fin. Je veux dire merci au Seigneur. De tout mon cœur, je veux remercier Dieu, le Dieu Saint. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créé. Et moi aussi, je veux dire merci Seigneur. Lorsque dans notre recueillement du matin ou du soir, nous lisons ou relisons ces versets admirables, nous voyons se dresser devant nous, irrésistiblement, magnifiquement, cette vérité éternelle que notre Dieu est un Dieu qui donne, qui se donne, qui pardonne. Notre âme se réchauffe au contact de la foi de l'auteur de ce psaume et notre prière s'élève plus ardente vers le ciel pour louer l'Éternel de tous ses bienfaits. À plus forte raison, quand nous lisons les paroles de Jésus, nous éprouvons le sentiment d'être en présence de la vérité. Un courant de certitude et de reconnaissance passe en nous qui nous traverse de part en part, nous révélant à la fois ce que nous sommes et ce que nous devrions être, et nous soulevant au-dessus de nous-mêmes à la rencontre du Dieu Sauveur. Et si ce sont les affirmations ou les recommandations pratiques de l'apôtre Paul qui, un jour donné, font l'objet de notre lecture et de notre méditation, notre foi en Jésus-Christ est fortifiée par le témoignage de l'apôtre. Notre volonté d'obéissance à Jésus-Christ est vivifiée par la flamme et par l'autorité et par la vérité des exhortations de l'apôtre. Quelque chose qui ressemble à une contagion se produit, qui fait pénétrer en nous l'esprit qui animait ce géant de la foi. Ces paroles éternelles nous deviennent actuelles. Par elles, nous est donné quelque chose qui nous renouvelle, qui nous nourrit, qui nous inspire. Oui, en vérité, la Bible ainsi, c'est exploiter une mine qui est là ouverte aux recherches de tous, et pour tous, inépuisable. Et ceci est déjà admirable. Mais il y a quelque chose de plus merveilleux encore. Non seulement la Bible contient des paroles éternelles, et éternellement enrichissantes, dont nous pouvons tous, au même titre, nous nourrir, mais il arrive aussi, parfois, qu'en lisant le texte sacré, nous ayons l'impression de ne plus être seulement en présence d'une parole vraie pour tous, d'une vérité éternelle, riche pour tous, d'une richesse éternelle, mais d'une parole qui nous est adressée d'une manière personnelle et directe, à nous-mêmes, par Dieu lui-même. Ainsi, parmi tant de textes tout chargés de vérité, il y en a un qui, tout à coup, nous devient vrai d'une vérité spéciale, d'une vérité personnelle. Alors nous pouvons dire non seulement « Dieu nous a parlé », non seulement « Dieu nous parle », mais « Dieu me parle ». Il me parle pour me consoler, moi. Il me parle pour me pardonner à moi. Il me parle pour me donner un ordre à moi. Il me parle pour me convertir, moi. Combien sont ceux qui ont reçu personnellement l'appel adressé au prophète Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et qui ont répondu, me voici, envoie-moi. et dont le parcours a été totalement consacré au Seigneur. Combien d'affligés aussi ont été consolés en éprouvant que c'était à eux, pour eux, dans leur épreuve, que Jésus-Christ disait « Venez à moi et je donnerai le repos à vos âmes ». Parfois même, c'est une parole neutre en apparence, une phrase ou un verset biblique qu'on ne connaissait depuis longtemps, sans lui attacher une valeur spéciale, qui tout à coup revêt un tout autre aspect. Saisit le cœur avec une puissance inattendue et devient une parole de Dieu personnellement dite et personnellement écoutée. On entend souvent dire que pour nous protestants, la Bible est un livre sacré mais lointain. Dieu certes y a parlé, mais autrefois. Mais entre cette autre fois et aujourd'hui, il y a nombre de siècles, l'abîme des siècles. À quoi il nous est facile de répondre que cet abîme des siècles n'existe pas, ou que sur lui un pont est jeté. Car dans toutes les générations chrétiennes, il y a eu des êtres à qui Dieu a parlé par la Bible de la manière la plus directe. Et il parle aussi ainsi encore à nous aujourd'hui. Sans cela, croyons-nous qu'il pourrait y avoir encore tant de gens pour lire et méditer la Bible. Avant d'en terminer, qu'il me soit permis, conformément à l'un des buts de cette réflexion, d'aborder l'aspect pratique, vous faire part de quelques principes utiles, principes résultant non pas d'expériences personnelles, ce serait présomptueux, mais d'échanges avec les uns et les autres en différentes occasions. D'exemples donnés par telle ou telle personne de notre entourage, d'expériences vécues, principes utiles à qui veut chaque jour ouvrir sa Bible. D'abord, pour que Dieu vraiment nous parle, dans sa parole, le lui demander. Ne pas m'attendre d'avoir la Bible pour prier, mais prier en quelques mots très brefs, en forme d'invocation pour bien lire la Bible. Un exemple de ce qui est pratiqué lors de nos cultes le dimanche. Ensuite, ne pas lire au hasard, car on risque alors de tomber sur tel ou tel passage dont Dieu lui-même aurait de la peine à se servir pour nous aider. Ou bien, et c'est le cas le plus fréquent, du fait qu'un livre quelconque a tendance à toujours s'ouvrir à la même page parce qu'il en a pris le pli, on risque de retrouver toujours les mêmes passages et d'éprouver l'impression désastreuse que c'est toujours la même chose. Il semble bien que la meilleure méthode soit celle qui consiste à suivre une liste comme celle qui nous est proposée, par exemple, dans Parole pour tous. Mais il en est d'autres. L'indication de passages précis qui s'enchaînent les uns aux autres et s'éclairent les uns les autres, avec un texte très simple pour orienter la méditation, à mes yeux contestable quelquefois, quel secours pour la régularité de la lecture. Et en même temps, quelle force de savoir que chaque jour, on est un grand nombre, une multitude, à lire solidairement le même texte. Ce texte, maintenant, le lire attentivement, le lire lentement, le lire pourquoi pas à haute voix, tout en cherchant à éviter ces deux écueils que sont la distraction et l'accoutumance. Ne pas croire non plus qu'avaler des chapitres entiers est nécessaire à notre pratique spirituelle. Mieux vaut souvent se concentrer sur quelques versets et bien les méditer. À ce sujet, j'ai eu maintes discussions avec une amie dont la très grande foi ne peut pas être mise en doute, amie qui, engagée dans une certaine église évangélique, se donne pour devoir de lire chaque année la totalité de la Bible. Pour aussi résister à la tentation de rester sur le plan des généralités vagues, et de s'appliquer à prendre réellement pour soi ce qu'on a lu. Puis aussi résister à la tentation de rester sur le plan des généralités vagues et de s'appliquer à prendre réellement pour soi ce qu'on a lu, lorsque nous recevons de plein fouet une parole de Dieu qui nous est directement adressée. Il n'y a pas de difficulté à cette personnalisation de notre lecture, mais lorsque nous nous trouvons devant une vérité éternelle et universelle, devant une loi qui est pour tous, devant une promesse qui nous est pour tous, prenons garde à comprendre que cette loi est aussi pour nous, que cette promesse vaut aussi pour nous, et laissons-la pénétrer jusqu'au fond de nous-mêmes. Pour cela, nous serons guidés par le silence. Le silence extérieur, bien sûr, mais aussi l'indispensable silence intérieur pour que Dieu nous parle par l'intermédiaire de son Saint-Livre. Lire, c'est écouter. Heureux ceux qui savent faire taire leur propre voix, leurs propres intentions, même leur propre bonne volonté pour écouter Dieu quand ils lisent la Bible. Enfin, parce que l'imitation de la parole de Dieu est le fait de notre être tout entier, il faut qu'elle aboutisse, il faut qu'elle soit orientée vers la vie. Ne croyons pas que chaque jour, notre lecture de la Bible doit obligatoirement aboutir à des résolutions pratiques, à des résolutions de conduite. Il se peut que certains jours, Dieu veuille seulement nous donner sans rien nous demander, mais dans l'ensemble, une vie de méditation biblique qui ne porte pas de fruits dans l'existence quotidienne serait indigne de la Bible et du Dieu de la Bible. Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, celui-là seul a bâti sa maison sur le roc. Il y a quelques années, a été organisé ici, sous une autre forme que la semaine biblique était organisée, a été présentée l'exposition biblique. N'est-ce pas là une façon de dire merci à Dieu pour son Saint-Livre? Mais le vrai merci, celui qui réjouira vraiment le cœur de notre Seigneur, sera celui qui prendra la forme pour chacun de nous, d'une lecture plus attentive, plus régulière, plus profonde des pages dans lesquelles Dieu nous a parlé et par lesquelles il nous parle encore. Par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Amen.